Et je lirai ce matin quelques versets dans le premier chapitre de l'épître de Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Vous le savez certainement, la lettre de Jacques a toujours dérangé. Depuis l'Antiquité, il y a eu des personnes pour dire qu'il ne fallait pas l'intégrer dans la Bible, jusqu'à Luther, qui l'appelait avec mépris l'épître de paille. Le problème, c'est que dans cette lettre, Jacques insiste avec une grande force sur l'importance des œuvres. Allant même jusqu'à dire que ce sont les œuvres qui justifient l'homme, que la vraie pure religion, c'est de visiter les personnes qui souffrent, les malades, et que l'essentiel est la compassion. Ce point de vue de Jacques semble contraire au cœur de l'Évangile tel que Luther l'avait découvert avec joie dans les lettres de Paul, le salut par la seule grâce de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Il y a donc dans la Bible comme ça des textes qui se contredisent. Et c'est tant mieux. La Bible n'est pas simpliste, elle offre le témoignage de points de vue différents, ça l'enrichit et du coup c'est un formidable stimulant aussi pour notre réflexion. Et au passage, ça nous montre que dans les premiers siècles du christianisme, le courant libéral prédominait. Alors ça nous oblige parfois à choisir entre ces points de vue différents et abandonner tel passage inacceptable. Il y en a dans la Bible. Mais souvent, ces points de vue se complètent plutôt et se nuancent mutuellement, comme cette lettre de Jacques, justement, qui ajoute une touche bien utile pour rendre compte de l'Évangile. Replaçons-nous peut-être dans le contexte de l'époque de Jacques. Jacques, il avait une autorité importante dans l'Église naissante du fait qu'il était un des frères de Jésus. On le voit même fixer les orientations du ministère de Paul et de Pierre pour leur mission. On voit ça en acte 15. Dans les premières années après la mort de Jésus, les chrétiens de Jérusalem restent tellement touchés par ce que le Christ leur a apporté qu'ils veulent vivre par la foi seule. Et d'après ce que nous dit Luc, il semble bien qu'ils passaient le plus clair de leur journée dans les études bibliques, dans les cultes, dans des repas pris en commun et en prière. Ce qu'ils offraient au monde, c'était leur témoignage, comme ce jour où, croisant un homme handicapé devant le temple et mendiant, Pierre lui répond « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Miracle, par la puissance de cette seule parole, l'homme est libéré. Et voilà, les choses semblent un peu plus compliquées, un peu plus difficiles, moins simples en tout cas, quand il s'agit de la détresse de pauvres qui meurent de faim. Comme le fait remarquer Jacques dans sa lettre, quand quelqu'un n'a ni nourriture ni vêtements, ça ne l'aide pas beaucoup de lui donner simplement une belle parole, il faut passer aux actes pour qu'il puisse se nourrir, éventuellement se réchauffer. Et c'est pourquoi les apôtres vont nommer rapidement des hommes et des femmes diacres dans l'Église pour être au service des autres, tant sur le domaine matériel que spirituel. Et on peut sentir déjà ce glissement, cette prise de conscience, cette mise en perspective que les chrétiens ont pu vivre pendant ces premières décennies en Jésus-Christ, qui a vraiment bouleversé le monde. C'est avant tout une foi et un amour, hein, ce n'est pas le triomphe de la santé et de la force. Ce qui a tout mis en route, c'est la bonne nouvelle de l'amour gratuit de Dieu. Et c'est cela qu'il faut transmettre. Cette annonce que quoi qu'on fasse ou ne fasse pas, nous serons toujours fidèlement, tranquillement, patiemment aimés de Dieu. Ce sont ces vérités essentielles qui forment vraiment le cœur de l'Évangile. Mais ces vérités sont à projeter dans le monde, et le monde où nous vivons actuellement, un monde où l'homme n'est pas un pur esprit, et où nous sommes tous à la fois corps et esprit indissociablement. Comme dans le premier récit de la création un peu, où l'homme est créé, on nous dit animal, et qu'il a à faire ce chemin lui-même, de participer à sa propre création en devenant petit à petit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors avec la grâce, nous comprenons aisément cette première génération d'humains bouleversés par la puissance de l'Évangile du Christ. Nous aussi, nous pouvons être profondément bouleversés, touchés par cette incroyable nouvelle que nous ne sommes pas face à Dieu comme à l'usine, devant gagner notre bénédiction et notre vie à la sueur de notre front et par nos bonnes œuvres. Nous n'avons pas à rendre à Dieu quoi que ce soit non plus, puisque c'est gratuitement qu'il nous donne la vie. Oui, le Christ nous a définitivement libérés de cette logique. Et en le voyant, lui, vivre par la foi, avec une telle générosité, une telle libéralité, il nous a fait prendre conscience de notre immense dignité aux yeux de Dieu. Il nous a fait sentir que nous sommes et que nous serons de toute façon aimés, infiniment aimés par Dieu, même si nous restions comme des pierres au bord du chemin. Alors un moment de stupeur a frappé ces hommes et ces femmes de Jérusalem, le temps qu'ils digèrent, si je puis dire, cette bonne nouvelle, cette grâce, cet amour gratuit de Dieu, qu'ils l'intègrent dans leur façon de comprendre la vie, de comprendre la foi, de comprendre Dieu, avec les questions aussi qui venaient avec. Mais si tout est grâce, alors à quoi bon agir dans le monde? Là n'est plus l'essentiel, c'est fatigant et nous n'avons rien à y gagner. Jacques, à ce moment crucial, prend la parole. Et il commence en évoquant lui aussi la grâce de Dieu, puisque c'est la base fondamentale. Jacques insiste, Dieu n'est absolument pas et jamais à la source d'aucun mal, il n'est l'auteur d'aucun mal, il n'y pense même pas une seconde, mais au contraire, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Il n'y a plus rien à craindre de Dieu. Il continuera de toute façon à offrir ses dons. Ce n'est donc pas par crainte que nous ferions le bien, mais simplement parce que c'est bien. Parce que telle est notre vocation et même notre nature profonde à l'image de Dieu, de ce Dieu qui est créateur, de ce Dieu qui vit de grâce, c'est-à-dire en faisant le bien pour la simple et pure joie de faire le bien. Dans la mesure où nous sommes à l'image de Dieu, ne devrait-on pas agir comme lui dans le monde, agir par grâce sans rien attendre en retour d'autre que la joie d'avoir créé du bon. Et pour commencer, nous dit Jacques, Il est bon d'écouter la parole. Il est bon d'être débarrassé de notre surplus de méchanceté et de recevoir en douceur, peu à peu, la parole qui sauve notre vitalité. Ce que Jacques appelle ici la parole, comme dans le reste de la Bible, ce n'est pas une parole faite littéralement de mots, mais c'est la dynamique d'évolution proposée par Dieu pour favoriser, accompagner, épanouir le développement de notre personnalité propre. Et pour savoir où nous en sommes, nous dit Jacques, nous pouvons plonger notre regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Ce n'est donc pas là non plus un code figé qui nous aiderait à faire le point, mais c'est plutôt en nous laissant interroger par l'Évangile et dans l'Évangile par la personnalité libre et créatrice du Christ. Parce qu'en le regardant, on peut alors voir notre image comme dans un miroir, et voir ainsi que nous sommes en réalité déjà un peu à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais aussi encore un peu une plante sauvage pleine de chaos, avec des bribes de méchanceté qui demeurent. C'est là que la prière, l'étude de la Bible et des moments comme ce culte que nous partageons maintenant peuvent être utiles. Nous avons là une chance de mieux nous connaître nous-mêmes et d'en tirer les conséquences pour nos vies, comme le propose Jacques. Face à ce miroir de la parole, voici alors quelques questions que nous renvoie le reflet. Est-ce que, effectivement, je suis en train d'avancer, de progresser? Est-ce que ma créativité, ma bonté, ma générosité grandissent en moi, un peu? Quelle part de méchanceté existe encore en moi-même? Et est-ce que je la vois, est-ce que je peux discerner qu'elle est en train, avec le temps, de diminuer? Quelle part divine, c'est-à-dire quelle part de créativité, de liberté, de pardon, de bonté existe en moi? Et donc, ce regard de notre image dans le miroir de l'Évangile nous permet de faire un premier bilan. Est-ce qu'il y a bien une mise en pratique effective de la théorie de la création de l'humain qui est en train de se développer dans mon être? Est-ce que, comme le propose la Genèse, Dieu et moi-même, dans une saine et respectueuse collaboration, sommes en train de créer un humain véritable? Bien sûr, comme le dit Paul dans Corinthiens 13, que nous avons lu tout à l'heure, regardant dans le miroir de l'Évangile, nous voyons tous une image un peu trouble et confuse, car nous ne sommes pas encore tout à fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a encore des tâches et nous avons encore à grandir, beaucoup. Pas de panique, nous dit Jacques, Dieu est amour. Il ne nous en veut pas une seconde de nos faiblesses, de nos manques, de nos défauts. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le premier bilan que nous pouvons faire dans le miroir de l'Évangile est donc de voir dans quelle mesure la parole de Dieu est concrètement à l'œuvre en nous, en travail en nous. Le second bilan est de reconnaître notre part divine et de voir si elle est effectivement aussi à l'œuvre. Cette part divine, elle est par nature faite pour créer de bonnes choses, du sens, de la bénédiction, de la louange, du repos. Notre vocation, nous dit Jacques, est de ne pas seulement être un récepteur pour la parole, ce qui était la première étape, mais c'est d'être nous-mêmes créateurs de paroles et créateurs d'œuvres bonnes. Il y a, nous dit Jacques, un vrai bonheur dans cet accomplissement, au point que l'on peut appeler ce simple et vrai bonheur de la gratitude. Dans quelle mesure sommes-nous un peu créateurs en ce monde? Parce que nous ne sommes pas seulement des créateurs de bonnes œuvres, mais selon Jacques, chacun de nous a aussi une vocation de créateur de paroles, porteur d'un témoignage qui renvoie à Dieu comme étant à la source de la bénédiction que nous partageons avec les autres. Et c'est là peut-être que l'éthique chrétienne va peut-être plus loin que l'éthique simplement humaniste. Parce que l'athée peut aussi être créateur d'œuvres bonnes, et même très bonnes, même s'il n'a pas saisi ou s'il a refusé le fait que son bon cœur et sa créativité sont les fruits d'une grâce divine. Mais nous sommes appelés à être les deux, par la grâce de Dieu, des créateurs d'œuvres bonnes, mais aussi des créateurs de paroles à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen.